Le 1er décembre dernier, comme tous les ans depuis 29 ans, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis le début de l'épidémie, cette maladie a tué environ 35 millions de personnes dans le monde. Comment est-ce que tout cela a débuté ?
Le VIH a été transmis de l'homme par les grands singes, infectés eux-mêmes par le virus de l'immunodéficience simienne, appelé VIS. Il existe 4 souches du virus VIH humain. 2 d'entre eux ont été transmis par des chimpanzés du Cameroun et 2 autres par des gorilles du sud-ouest du Cameroun également. Le virus aurait franchi la barrière des espèces lors de chasses, par morsure d'un singe infecté, par des écorchures de dépeçage de ces animaux ou lors de la consommation de viande de brousse, selon les chercheurs.
Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine et le sida sont souvent confondus, pourtant ce sont bien 2 choses différentes.
Eh oui Romain, le virus VIH est le virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise ou appelé sida au stade le plus avancé de l'infection. Lorsqu'il pénètre dans l'organisme, il s'attaque aux cellules du système immunitaire et les détruit progressivement. En l'absence de traitements antirétroviraux, les défenses immunitaires chutent et l'infection évolue vers le stade sida. Donc toute personne vivant avec le VIH n'est pas nécessairement au stade sida et ne le sera sans doute jamais avec traitement. Être séropositif au VIH, c'est être porteur de ce virus. Il existe uniquement 3 modes de transmission du VIH. Par la voie sexuelle lors de rapports vaginaux, buccaux ou anaux non protégés, par voie sanguine lorsqu'il y a échange de ce sang, ou de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Pour nous parler des questions du VIH-Sida en France et dans le monde, je vous laisse avec le docteur Harvieux, médecin au CHU de Rennes, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, également en charge de la coordination de la lutte contre le VIH en France. En France, environ 6000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2016. Quelle est la tranche d'âge la plus touchée et le mode de contamination le plus fréquent ?
Ça dépend en fait comment on regarde les choses. C'est-à-dire que, on a une épidémie qui est ce qu'on appelle une épidémie sur des groupes ciblés. En France, c'est pas le cas par exemple en Afrique où l'essentiel des contaminations sont des contaminations hétérosexuelles dans la population générale. En France, on a quelques groupes qui ont une épidémie qui est beaucoup plus dynamique, on va dire, que d'autres. Donc il y a le groupe des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, où là on voit pas vraiment l'épidémie baisser depuis quelques années. C'est même un des rares groupes où elle a augmenté depuis 2007. Donc là, on a vraiment une difficulté de prévention. On essaye de développer des nouveaux outils justement pour limiter cette épidémie-là. Donc c'est une épidémie qui est très dynamique au sens où les personnes sont très concernées. Donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes sont très concernés. On estime qu'il y a à peu près 17% en France des personnes, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes qui sont infectés par le VIH. Donc c'est beaucoup, c'est 0,1% de la population générale par ailleurs. Et puis on a un deuxième groupe où l'épidémie, on trouve trop dynamique aussi, c'est les femmes qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne, où là on a aussi une dynamique d'épidémie. C'est des femmes qui se contaminent en France très souvent, plus de la moitié, parce qu'elles sont dans un groupe où il y a pas mal de virus qui circulent. Et donc là aussi, on a une dynamique épidémique qui ne nous paraît pas correcte, au sens où ce qu'on souhaite, c'est que le nombre de nouvelles infections diminue chaque année. Et là, depuis, on dira sur les 5 dernières années, on n'a quasiment pas de diminution.
Et concernant justement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, on le sait, comme vous disiez, c'est un groupe identifié comme à risque. Comment ça se fait concrètement que le dépistage ne se fait pas plus régulièrement ?
Paradoxalement, alors que c'est un groupe qui est maintenant bien identifié comme étant dans une situation à risque de contracter le VIH, c'est effectivement, comme vous le dites, le dépistage ne se fait pas assez fréquemment. Sur les derniers chiffres de 2013 qu'on a, il y avait encore presque 3 ans entre le moment où une personne, globalement pour l'ensemble des personnes en France, c'était 3,2 ans, mais pour les hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'était un tout petit peu moins, 2,8, mais donc presque 3 ans entre le moment où on se contamine et le moment où on est, on va dire, diagnostiqué, donc soit dépisté si on n'a pas de symptômes, soit si on a des symptômes, on parle plutôt de diagnostic. Et on trouve effectivement que c'est beaucoup trop long. Les recommandations actuelles chez les hommes qui ont des rapports non protégés avec d'autres hommes, c'est de faire une sérologie tous les 3 mois, hein, pour essayer justement de repérer assez précocement, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est beaucoup mieux d'être traité tôt, même quand on n'a aucun symptôme, aucun signe de maladie, que ce soit des signes biologiques ou des signes cliniques. C'est beaucoup mieux d'être traité tôt pour soi. Le virus a moins le temps de faire de dégâts dans l'organisme, et c'est aussi mieux pour les autres, puisqu'à partir du moment où on est traité correctement, on ne transmet plus le VIH par voie sexuelle.
À combien on estime environ les séropositifs qui ignorent qu'ils sont infectés ?
En France, on pense qu'il y a à peu près aux alentours de 24 000 personnes. Donc il y a 150 000 personnes qui vivent avec le VIH en France. C'est une estimation globale. Et on estime que sur ces 150 000, il y en a à peu près 24 000 qui ignorent leur séropositivité, dont la moitié sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes.
Nous venons d'entendre le point de vue scientifique, mais le point de vue associatif militant est tout aussi important. Bonsoir, monsieur Stéphane.
Bonsoir.
Vous êtes volontaire élu à l'association AIDS Bretagne.
C'est ça.
Tout d'abord, pouvez-vous nous dire en deux mots ce qu'est l'association AIDS ?
Alors l'association AIDS, c'est la plus grosse association de lutte contre le VIH et d'hépatite virale en France. On a été créé en 84. Donc on intervient surtout auprès des publics dits cibles. Donc comme disait Dr Hervieux, les publics hommes ayant des relations sexuelles entre hommes, les travailleurs, travailleuses du sexe, les personnes trans, les consommateurs, consommatrices de produits psychoactifs et les personnes en situation d'incarcération pénitentiaire.
Et depuis 2015, la loi autorise les associations comme la vôtre à pratiquer des tests rapides appelés TROD. Quelle est la différence avec une prise de sang classique ?
La différence, c'est que le résultat est quasiment instantané. Juste une petite rectification, en fait, nous on est habilité depuis 2011 à le faire et depuis 2017 on est habilité à faire du VIH, de l'hépatite C.
D'accord. Nous retournons avec le docteur Hervieux sur les questions du sida dans le monde. En 2016, comme vous disiez, un peu plus de 36 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. Les deux tiers d'entre elles résident en Afrique. Quelles sont les actions humanitaires menées en Afrique, par exemple, pour diminuer le nombre de cas séropositifs ?
Ce n'est pas des actions humanitaires. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à faire à ce que les pays les plus concernés aient un accès aux soins de qualité, un accès au traitement. Donc, y a énormément de choses à faire. Hein. Y a un très gros travail politique au sens où, finalement, les outils aujourd'hui qu'on a pour lutter contre le VIH, ils sont très performants. Le dépistage, c'est très simple et c'est pas cher. Les traitements aujourd'hui, alors même si les traitements sont très coûteux en France, les négociations de prix avec l'arrivée des génériques, etc., ont fait que les traitements sont peu coûteux en Afrique. Hein. Dans les pays les plus pauvres d'Afrique, un traitement antirétroviral, ça coûte à peu près $100 par an. En France, on est plutôt aux alentours de $1000 par mois. Donc il y a des très grosses différences. Donc c'est pas un problème de coût. Il y a des organismes qui interviennent comme le Fonds mondial, le programme américain pour la lutte contre le VIH. Donc, qui permettent de financer aider les États à éventuellement financer leur traitement. Mais par contre, s'il n'y a pas la volonté politique de faire à ce que ça avance pas. Alors, on a un très bon exemple en Afrique. Il y a le Botswana qui s'est réveillé tard, mais qui s'est bien réveillé et qui arrive à faire à ce que plus de 90% des personnes qui ont besoin d'un traitement soient sous traitement, que toutes les femmes enceintes soient dépistées, ils sont quasiment à 99%, et qu'elles soient sous traitement pour éviter la transmission au bébé. Donc, il y a vraiment eu un effort majeur de fait dans ce sens-là. Et puis, très loin derrière, à l'autre bout de la chaîne, on a le Nigeria, où il y a 3 500 000 séropositifs, où il y en a plus de la moitié qui ne sont pas dépistés, il y en a à peine 20% qui ont accès au traitement, où c'est une véritable catastrophe en termes de santé publique. Donc c'est vraiment une question, et ça avec les mêmes outils. Ils ont les mêmes outils de dépistage, les mêmes traitements, tout est équivalent en termes d'outils. Donc c'est vraiment qu'une question de la façon dont on met ces outils à disposition. Donc il y a un gros travail de lobbying de la part des associations, notamment MSF, Médecins Sans Frontières, a fait un énorme travail pour faire baisser les prix des médicaments. Donc ça, on peut leur vraiment être redevable de ça. Il y a un gros travail aussi donc des États du Nord pour essayer de financer une partie de la lutte contre le VIH. Mais bon, il faut que le Nigeria, ce n'est pas un pays pauvre. Hein. C'est un pays où la population est pauvre, mais ce n'est pas un pays pauvre. Donc c'est vraiment une question de où est-ce que je mets mes moyens financiers. Est-ce que je les mets dans la lutte contre le sida, ou est-ce que je les mets en Suisse, ou est-ce que je les mets dans l'armement, quoi.
Sur les questions du sida dans le monde, j'ai vu que vous, AIDS, faisiez partie de la Coalition Plus, un groupement de plusieurs associations communautaires dispersées un peu partout dans le monde. Quel est son objectif ?
Justement, comme le disait encore le docteur Hervieux, Coalition Plus, c'est vraiment un regroupement pour organiser la lutte mondiale de lutte contre le VIH. Généralement, on est plus sur du plaidoyer sur les États, par rapport aux États, pour que l'accès soit facilité aux ARV.
Et vous êtes sur cette question-là, finalement, de des mêmes traitements, des... tout ça. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit par rapport aux autres pays comme l'Afrique ?
Alors justement, oui, on est tout à fait d'accord avec eux, avec lui du moins, et c'est pour ça que Ed part très souvent en bataille avec les différents laboratoires, dont là encore, on part en bataille contre le laboratoire Gilead.
Beaucoup de progrès ont été faits depuis le début de l'épidémie, notamment la question des traitements. Je vous laisse avec le docteur Harvier pour nous en parler.
Un peu moins de 2 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH dans le monde en 2016, soit environ 5 000 cas par jour. Quels sont les progrès qui restent encore à faire pour lutter contre les nouvelles contaminations ?
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a tous les outils. Donc aujourd'hui, les personnes traitées ne transmettent plus. Donc l'idéal, c'est de dépister tôt et traiter tôt. Si on dépiste tout le monde, si on dépistait tout le monde dans le mois qui suit la contamination et qu'on mette cette personne-là sous traitement, le risque de contamination des autres, il diminue dès la première prise de médicament. Dès le premier jour où on prend un traitement, on est déjà moins contaminant. On l'a bien montré avec le traitement des femmes qui arrivent en salle d'accouchement, en train d'accoucher. Si on leur donne ne serait-ce qu'un comprimé, elles transmettent moins que si on leur donne rien. Donc le risque de transmission, il diminue tout de suite. Il devient quasi nul à partir de, on considère, 6 mois à peu près, encore avec les traitements qu'on utilise aujourd'hui, c'est probablement encore plus court que ça. Donc dépister tôt, traiter tôt, c'est vraiment la clé. Après, il y a des... On a bien vu le préservatif qui est beaucoup promu depuis le début de l'épidémie. Ça a pas mal marché, hein. Puisque le début de la diminution du nombre de nouveaux cas est arrivé quand même avant qu'on mette vraiment les traitements en place de façon extensive. Donc le préservatif, c'est quelque chose qui marche, mais on voit bien qu'à lui seul, il ne suffit pas. Et donc on met en place des traitements préventifs, par exemple, ce qu'on appelle la prévention pré-exposition, la PrEP. Et ça marche très bien chez les gens qui sont très à risque de contracter le VIH. C'est un très bon moyen, c'est un moyen très efficace. Avec un comprimé par jour, on a quasiment qu'on a 90% d'efficacité. En fait, si les gens le prennent bien, on n'a quasiment aucun échec. Il y a un échec qui a été décrit, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc en prenant un comprimé par jour, finalement, on est parfaitement protégé. Alors les hommes, plus que les femmes d'ailleurs, ça marche mieux chez les hommes que chez les femmes. Mais voilà, ça marche quand même très bien globalement.
Depuis la découverte du virus VIH en 1983 par l'équipe de l'Institut Pasteur à Paris, où en sommes-nous aujourd'hui au niveau des traitements ?
Alors, les traitements antirétroviraux qu'on utilise aujourd'hui sont très efficaces. Hein. On reste sur la base de ce qu'on a mis en évidence dans les années 80, au milieu des années 90, c'est-à-dire que là où on est parfaitement efficace, c'est avec trois médicaments. Il faut trois médicaments différents pour arriver à faire à ce que le virus ne se multiplie plus. Ce n'est pas une découverte, hein. Il y a d'autres maladies dans lesquelles plus courantes, la tuberculose par exemple, on est obligé d'utiliser trois ou quatre molécules également. Donc ce fait d'utiliser plusieurs molécules anti-infectieuses simultanément pour éviter que le virus ou la bactérie échappe au traitement, ce n'est pas un concept qui est venu avec le VIH, hein. C'est un concept qui est bien plus ancien. Aujourd'hui, on reste sur la base de trithérapie, en tout cas quand on débute les traitements. On travaille là beaucoup maintenant sur faire des traitements plus légers, sur les traitements d'entretien. On voit bien que les gens qui ont plus d'infections actives depuis plusieurs années sous trithérapie, finalement, certains probablement peuvent bénéficier de certaines bithérapies, voire des fois avec un seul médicament, une monothérapie. Donc il y a pas mal d'études qui sont en cours pour ça. Donc ça, c'est un progrès en termes de médicaments. L'autre progrès aussi, c'est qu'on a réussi à faire, en tout cas les industriels qui fabriquent les médicaments, puis les génériqueurs après, ont réussi à mettre plusieurs antirétroviraux dans le même comprimé. Donc finalement, on a plein de personnes maintenant qui sont traitées avec un seul comprimé par jour, ce qui a un confort, je dirais, en termes de... à la fois de vie. On sait que c'est beaucoup plus simple de prendre qu'un seul comprimé par jour que de prendre un comprimé deux fois par jour. Donc ça permet voilà, d'avoir une vie plus simple, entre guillemets, avec le VIH. Donc, et puis là où on a fait des gros progrès aussi, c'est sur les effets secondaires, parce que les premières trithérapies qu'on a utilisées dans les années 90 étaient efficaces, mais avaient beaucoup d'effets secondaires. Et là, depuis début des années 2010, on commence vraiment à avoir un panel de traitements. C'est pas qu'ils n'ont pas d'effet secondaire du tout, mais finalement, si un médicament a un effet secondaire, on peut le changer pour un autre. Voilà, et normalement, on devra arriver pour chaque patient à avoir un traitement pour lequel il n'est strictement aucun effet secondaire. Quoi.
Votre association AIDS vient d'adresser à la Cour de justice européenne un mémoire pour stopper le monopole du laboratoire américain Gilead sur l'antirétroviral Truvada, un traitement préventif contre le VIH. Quelles sont vos revendications à ce sujet ?
En fait, ce que Gilead souhaite faire, c'est doubler son dépôt sur le Truvada pour empêcher les génériqueurs de le fabriquer. Sauf qu'ils ont présenté un nouveau médicament qui est exactement la même chose à un tout petit truc près. Donc ça ne vaut pas une évolution magique dans les ARV, donc ce n'est pas entendable. Aujourd'hui, on sait que la boîte de Truvada, elle vaut 500 euros. Le générique, un des génériques, il est à 132 euros. Donc nous aussi, on pense aussi à l'État français, pour faire des économies, les génériques sont favorables alors que c'est exactement la même chose.
Et où s'en est actuellement de...
Pour l'instant, on vient juste de lancer l'appel. On a beaucoup d'assos qui ont répondu, d'assos de lutte contre le VIH, du moins qui ont répondu présents, et on part en bataille encore contre eux.
On entend en ce moment la fin du sida en 2030. Qu'est-ce qu'il en est ? Comme précédemment, nous écoutons le docteur Arvieux, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à Rennes, puis nous nous retrouverons en studio avec AIDS.
L'OMS s'est donné comme objectif la fin du sida en 2030. Quels sont les éléments probants qui donnent espoir actuellement ?
Quand on dit la fin du sida, il faut bien faire la différence de la fin du VIH. La fin du sida, ça veut dire arriver à faire à ce que les personnes soient dépistées et traitées suffisamment tôt pour pas qu'elles développent de complications de la maladie. Donc ça veut dire un très gros effort de dépistage et puis un effort de mise sous traitement des personnes dépistées. Les tendances qu'on voit actuellement sont plutôt bonnes en termes de mise sous traitement. Il y a un peu plus de 50% des personnes qui devraient être sous traitement dans le monde qui le sont aujourd'hui. Donc sur les 36 millions de séropositifs dont on parlait, voilà, il y en a un petit peu plus de la moitié qui sont sous traitement, donc il y a encore une petite moitié qu'il faut arriver à mettre sous traitement. Mais la proportion des personnes sous traitement par rapport au nombre de personnes contaminées augmente chaque année, donc ça c'est plutôt un bon signe qu'on peut y arriver. La proportion de personnes dépistées augmente aussi, donc ça c'est plutôt un bon signe aussi. Après, c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui restent très très en retard. Toute la zone d'Asie centrale, d'Europe de l'Est a un gros retard par rapport au dépistage et au traitement. À l'inverse, il y a des pays africains qui progressent très 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 vite vers la mise sous traitement de toutes les personnes séropositives. Donc c'est très variable d'un pays à l'autre. Mais voilà, les indicateurs aujourd'hui mondiaux sont plutôt dans le bon sens. Après, ce qu'on sait de ce type d'épidémie-là, c'est que si on veut arriver à passer une étape et que ça ne reparte pas, il y a un moment où il faut augmenter de façon considérable les efforts en termes de prévention. C'est-à-dire, si on se repose sur ses lauriers et qu'on se dit « bon, ben, c'est pas mal ce qu'on a là, on ne fait rien de plus », en fait, du coup, ça repart. Et le modèle épidémique du VIH, il est assez bien étudié pour ça. Ce que dit l'OMS en pratique, c'est que si on ne fait rien de plus dans les années qui viennent, là, on va avoir une épidémie qui va reflamber d'ici une dizaine d'années. Donc il faut, en fait, alors qu'on est plutôt mieux en termes d'indicateurs, il faut redoubler d'efforts pour pas que ces indicateurs se détériorent.
Et concernant la fin du VIH, c'est plus compliqué ?
Oui, c'est plus compliqué parce que le virus VIH, donc c'est un virus qui s'intègre à l'intérieur du génome des cellules humaines. Donc une fois qu'il est intégré dans les cellules, il est intégré dans des cellules qui sont essentielles au fonctionnement du système immunitaire humain. Donc on ne peut pas se dire on va détruire ces cellules-là. Et puis voilà, si on détruit ces cellules-là, on détruit nos capacités de défense. Donc il faut arriver à extraire, soit il faut arriver à extraire le virus qui est intégré dans les cellules. Et ça, on ne sait pas bien faire ça pour l'instant. Il y a pas mal d'équipes de recherche qui travaillent là-dessus, mais bon, on n'avance pas très très vite. Soit ce qui paraît peut-être un petit peu plus accessible, c'est d'arriver à faire à ce que le système immunitaire, parce qu'il n'y a plus du tout de virus qui se multiplie grâce au traitement, on puisse le renforcer avec d'autres traitements qui lui permettent de maîtriser tout seul l'infection par le VIH une fois qu'on a arrêté tout traitement antiviral et tout traitement immun. C'est en gros essayer d'obtenir ce qu'on obtient chez certains patients spontanément, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire il y a certains patients, on ne sait pas trop pourquoi, pour certains on sait un petit peu, il y a quelques mutations génétiques, des choses comme ça, mais il y a certains patients qui maîtrisent leur infection VIH, donc on a dit très, très rarement, et ce qu'on voudrait essayer c'est de reproduire ça, c'est-à-dire d'arriver à faire à mettre les personnes dans une situation immunitaire où finalement elles aient plus besoin de traitement pour faire à ce que le virus se multiplie plus. Donc ça, il y a aussi beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent là-dessus. Donc d'un côté, il y a ce qu'on appelle l'éradication, arriver à sortir tout le virus, mais ça, on ne sait pas trop, bon, on aura peut-être les outils un jour, hein, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop quelle est la voie pour y arriver. Et puis il y a la voie du contrôle immunitaire, et ça, ça nous paraît un petit peu plus accessible. Et de façon assez étonnante, il y a vraiment une synergie de recherche entre les médicaments anticancéreux et les médicaments anti-VIH, alors qu'on est dans deux domaines complètement différents. Mais parce que ça s'intéresse à la, on va dire globalement, au contrôle génomique. Et si on arrive à contrôler les gènes qui permettent de faire à ce que le virus se multiplie ou se multiplie pas, de la même façon qu'on essaie de contrôler les gènes qui font que le cancer, les cellules cancéreuses vont se multiplier ou pas, eh bien on peut arriver à avoir finalement un succès en termes de capacité de l'organisme à faire à ce qu'il y ait plus de multiplication virale.
En août dernier, sortait dans nos salles 100 vêtements par minute. Je rappelle pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, nous sommes au début des années 90, alors que le sida tue depuis 10 ans. Des militants d'ACT UP multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Pour vous, Monsieur Stéphan, pour AIDS, les mœurs, les mentalités ont-elles évolué dans ce domaine ?
Elles ont un tout petit peu évolué. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, et surtout contre la discrimination.
Parce que fin novembre dernier, vous avez publié à l'occasion de la Journée mondiale votre rapport annuel sur les discriminations vis-à-vis des personnes séropositives. Vous revenez notamment sur la récente levée de l'interdiction des soins funéraires, le droit à l'oubli ou encore la PrEP. Que vous inspirent ces résultats ?
Pour moi et pour être, c'est une alarme urgente à arrêter. C'est inattendable qu'en quasiment 2018, il y ait encore de tels propos. C'est inimaginable. L'État et l'éducation nationale doivent se prendre en main et faire son boulot. Nous, associatives communautaires, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. On peut pas. C'est impossible. On a eu un accord avec eux qui devait s'engager à faire de l'éducation sexuelle et préventive. Pour l'instant, ils ne le font pas.
Parce que l'association AIDS est en lien direct avec les personnes séropositives. Pouvez-vous nous dire comment se sentent-elles dans la société, niveau familial, professionnel ?
Aujourd'hui, encore, c'est très difficile d'annoncer à sa famille, à ses proches, à ses collègues de travail qu'on est séropositive. Nous, on a beaucoup de personnes, donc on est vraiment une association de soutien à l'origine, hein, des personnes séropositives, qui nous annoncent qu'elles prennent leur traitement dans des boîtes de vitamines ou dans des boîtes d'efferalgans pour cacher que ce sont des ARV qu'elles prennent.
Ouais, c'est important encore, la lutte encore, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Oui.
Et je finirai par vous demander, avez-vous un événement marquant, militant ou non, dans la lutte du VIH, SIDA ?
Alors, c'est peut-être un peu bête, mais donc moi, je suis habilité au dépistage, au TROD, test d'orientation rapide au diagnostic. J'ai eu un jeune un jour qui m'a annoncé qu'il avait pris une prise de risque. Très bien, donc nous, on est dans le non-jugement et dans la confidentialité. Je l'ai écouté, sa prise de risque, c'était d'avoir embrassé son copain. Ah. Non,
c'est pas une prise de risque.
Non.
C'est important vraiment d'expliquer énormément de choses. Pareil, quand vous voyez certaines populations prioritaires, est-ce qu'il n'y a pas un caractère discriminatoire aussi à venir mettre les tolards, les homos, en gros, comme personnes prioritaires ?
Alors, c'est peut-être, mais nous, on se rend bien compte avec les chiffres de la file active, que ce soit sur la Bretagne ou en France, que ce sont ces publics-là, et généralement, c'est les publics qui ont du mal à passer les portes du médecin généraliste pour leur dire que je suis homo ou j'ai des relations sexuelles à fort risque, ou même aller dans les CEGID, donc c'est les centres d'éducation gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. C'est super difficile de passer la porte. Donc nous, notre avantage avec les tests rapides, c'est qu'on va directement vers eux et on leur apporte la solution, une des solutions de prévention.
Et alors pour l'espoir de cette fin du sida en 2030, comme le disait le docteur Hervieux, quelles sont les priorités pour vous à AIDS, outre le dépistage par lequel on finira ?
Alors justement, pour nous, une des autres priorités, c'est justement le prophylaxie pré-exposition, donc la PrEP, pour l'ouverture à toute la population. Pour l'instant, on est encore sur des publics clés, mais il faut l'ouvrir à l'ensemble de la population mondiale pour pouvoir réussir à arrêter l'épidémie en 2030-2040.
AIDS. On suit votre action de lobbying et de travail au quotidien, tout simplement sur Internet. Une belle ONG. Merci.
Merci.
Merci. Vous l'aurez bien compris, le dépistage est très important. Il faut faire le test dès qu'il y a une situation à risque. Pour cela, plusieurs solutions existent. La prise de sang classique que vous pouvez effectuer dans le centre Cégide à Pontchaillou, soit la méthode TROT, comme on vient de l'expliquer, effectuée par des associations comme AIDS.
Merci beaucoup à Claire pour cet enjeu de santé. Et c'est la fin de ce magazine.